Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de conversation. Ce soir, c'est avec Jean-Robert Vialet et Alice Audio.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Jean-Robert Vialet.
Et Alice Audio. Ce film est une boucle, comme le sont certains très bons livres qui s'achèvent sur un signe plus ou moins clair adressé à leur début. Ici, c'est un homme derrière une vitre sale dont on aperçoit les cernes sombres, qu'a, comme le dira un des détenus plus tard, la prison, sa fatigue. Pendant 25 jours, vous filmez un peu de la prison des Baumettes à Marseille, ne l'analysez pas, ni ne la commentez. Si vous filmez, c'est qu'on vous a laissé faire. Dans documentaire, il y a document. D'abord, elle ressemble à une usine, cette prison. Vous en filmez les couloirs décrépits, des chaînes aussi, aux gestes rapides pour embarqueter la nourriture et aller savoir pourquoi on pense aux abattoirs. Ensuite, elle ressemble à un monde où on attend quelques grammes de tabac descendu du ciel, où l'on négocie ses cantines dans un bureau banal, mais peut-être qu'on venait juste pour dire qu'on n'a pas vu ses enfants depuis un bail. Votre film s'appelle Des Hommes. Il est en salle depuis mercredi. C'est un très beau film, mais il ajoute une pierre à l'édifice d'un diagnostic terrible quant au lieu de privation de la liberté en France. Bonsoir à tous les deux, Alice Audio et Jean-Robert Vialet. 25 jours, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ?
Ça passe très vite, c'est le plus court, le plus facile, le moment du tournage. C'est tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après. Avant, c'était très long. On a attendu 2 ans pour pouvoir rentrer dans cette maison d'arrêt. Et quand on y rentre pour la première fois, on n'a pas de caméra, on n'a pas de micro et on va rester là 3 semaines pour comprendre en fait ce que c'est que cet endroit qui est oui une boucle dans laquelle on tourne à l'infini. Et puis ensuite on va attendre encore 1 an. Pour pouvoir revenir avec notre caméra et les micros. Et puis ensuite, il y a tout le temps du montage qui est très long.
On en reparlera, mais on écoute un extrait.
Vous êtes sourd et muet, et on communique comment ? Vous arrivez à lire sur les lèvres, d'accord. Et vous répondez en écrivant ? Oui,
en écrivant, je vous donne un papier.
Vous avez déjà été incarcéré en prison déjà ? Première fois ? D'accord.
Dans les documentaires radio, dans les documentaires cinéma, quand on filme la prison, on fait entendre un gros boucan. C'est souvent ce qui est très prégnant, les cris des détenus, les portes qui claquent, les serrures, etc. Et commencer par cet extrait, c'est vous interroger sur le traitement sonore que vous avez choisi et sur la manière dont vous avez traité ce bruit, d'une certaine manière, qui est aussi une métaphore de la communication plus générale, de ce qu'on s'entend ou ce qu'on s'entend pas.
Alors, bon, la manière dont on a traité le bruit, le son en général dans le film, c'est sur se déployer sur plusieurs aspects. D'abord là, ce qu'on vient d'entendre juste à l'instant, concrètement, effectivement, on voit on suit l'arrivée d'un sourd muet en prison. Donc forcément, là, dans ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce que, sans savoir vraiment, mais qu'est-ce que lui, il arrive à percevoir comme son... Donc on a beaucoup réduit à ce moment-là le niveau sonore, effectivement, les bruits de porte, les bruits de clés, les hurlements, les résonances, etc., pour essayer d'être un peu plus dans sa tête et dans sa progression, dont on le voit, donc rentrer dans le bâtiment vraiment d'incarcération, on le voit monter un escalier avec un sac en plastique dans lequel il y a tout... transparent, donc un grand sac en plastique dans lequel il y a toutes ses affaires, le papier toilette, la serviette, je sais pas, enfin voilà, les quelques affaires qu'il a... Et donc on essaye d'être un peu dans sa tête. Et au fond, c'est ce qu'on va faire sur tout le traitement sonore du film, c'est-à-dire être un peu dans les têtes des gens. Parce que les bruits, c'est pas seulement les bruits physiques, les bruits réels qu'il y a, mais les bruits, c'est tous les bruits qui parasitent les cerveaux en prison. Parce qu'en prison, on s'ennuie pas seulement. On n'est pas seulement dans un milieu violent et absurde. On est dans un milieu où effectivement, les cerveaux, les têtes sans doute travaillent très 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 puissamment. Donc les bruits, tout ça, mais les bruits, il y a aussi ce qu'on a rajouté nous dans le film, notamment pour sortir le film de la stricte orthodoxie documentaire. On a à certains moments rajouté de la musique, comme dans cette scène, parfois de la musique beaucoup beaucoup plus exagérée pour essayer d'emmener le film de moments de grand réalisme à des moments de quasi-fiction à la frontière du clip, parce que effectivement on souhaitait à des moments que la musique joue comme une narration supplémentaire, comme une voix off. Donc on a joué avec tout ça, voilà. Mais par moment, dans des grands moments de réalisme, tout le son de la prison a l'espace pour revenir comme il est dans sa réalité, c'est-à-dire extraordinairement oppressant.
Vous parlez des cerveaux et des choses qui peuplent les cerveaux, éventuellement des voix ou des bruits en plus des seuls bruits de la prison. J'aimerais qu'on parle de cette première image où un homme est derrière une vitre comme ça, très quasiment opaque, mais c'est de la saleté. Et c'est un homme qu'on n'entendra plus après, qui demande juste du feu. Mais c'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous dit au revoir dans le film. Et probablement que lui, il doit y avoir du monde, quoi, dans sa tête, ou il doit y avoir du bruit, ou il doit y avoir quelque chose de très difficile. C'est important peut-être de parler de cette image parce que ça rappelle qu'une grande partie, une trop grande partie des gens incarcérés relèvent de la psychiatrie ou relèvent de la maladie mentale. C'est peut-être un des signes que vous nous adressez au début et à la fin de ce film.
C'est vrai que concrètement, tous ces hommes qui peuplent la prison des Baumettes et d'autres maisons d'arrêt ont été jugés rapidement, pendant une comparution immédiate. Aujourd'hui, la plupart des condamnations pénales qui sont prononcées se font ainsi, en fait. Très rapidement, en 20 minutes, on va juger un homme. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'expertise médicale, en fait, qui peuvent attester de la santé mentale d'un homme qui va être jugé. Donc on va juger beaucoup de fous, de schizophrènes aussi, qui peuplent les prisons. Et souvent, s'ils se retrouvent là, c'est pas simplement qu'il y a des lits dans les hôpitaux psychiatriques qui ferment, des places en moins, c'est aussi parce que ils sont jugés sans que leur capacité mentale ait été expertisée. Ensuite, cet homme-là, c'était un moment dur. Enfin, c'était, je me souviens de, enfin, ce tournage m'a particulièrement, ce moment, cette séquence m'a particulièrement marqué. On est resté longtemps avec Jean-Robert derrière cette porte. On est resté sans doute une demi-heure. C'est très long. C'est voilà, et
c'est une porte vitrée. Il y a cet homme-là.
C'est une porte vitrée. C'est une
tourne en rond.
Ils sont dans une salle d'attente, en fait. C'est une salle d'attente. C'est là qu'on attend pendant des heures un entretien avec un agent de la pénitentiaire. On attend beaucoup en prison, et ça nous semblait important de filmer ce moment d'attente. Au début, on voulait pas filmer cet homme-là, en fait. On voulait se mettre là parce que au fond de cette salle d'attente, il y a un personnage qu'on avait déjà filmé, un homme qu'on avait filmé en train d'écrire une lettre à sa chérie et qui nous avait beaucoup touchés. On lui a demandé à travers la porte s'il voulait bien qu'on le filme là en train d'attendre. On a posé cette question évidemment à tous les hommes qui étaient là. Et puis Jean-Robert a posé sa caméra. Et c'est un moment presque quasiment douloureux, quoi. Mais qu'il faut savoir accepter et prolonger jusqu'à ce que ce soit presque insupportable, en fait. Mais du coup, cet homme-là, il a passé beaucoup de temps avant à réclamer une cigarette. Et puis, une fois qu'il a réussi à avoir une cigarette, il n'avait pas de feu. Et en fait, cette quête, elle va durer très longtemps. Et ça le rend dingue. Il est fragile. Sans sa clope, il va péter un plomb, quoi.
Ça rend dingue aussi de voir cette image, et ça nous met dans un certain état avant de voir le reste du film des hommes, et ça nous met dans un certain état que ce soit lui qu'on retrouve à la fin. Est-ce que c'est un signe qui nous dit que la plupart des hommes qui passent en prison sont voués à y revenir ?
Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, le film, sans s'exprimer, sans que nous nous exprimions en voix off, etc., c'est-à-dire par lui-même, juste par les séquences et la présence des individus dedans, des hommes, les détenus, mais en même temps aussi également les surveillants ou surveillantes de prison, tout cela sont filmés. Il y a effectivement ça. C'est un film qui interroge sur la pertinence de tout ça. Ou sur l'absurdité de tout ça. C'est un film qui interroge, ou tout seul, sur la récidive, sur est-ce que, et voilà. Et donc, cette circularité, c'est-à-dire ce même plan en début de film et en fin de film, qui est en fait une seule prise, hein, de 30 minutes, qu'on a coupé en deux et dont on a gardé un bout à chaque fois, il y a une double circularité. Moi, c'est pour ça que je trouve ce plan très, très puissant et très fort. C'est-à-dire que lui, il circule dans cette pièce, qui est une petite pièce, d'environ 10 mètres carrés. On le voit tourner, il revient régulièrement devant cette vitre, il nous regarde, il a les yeux qui chassent à gauche, à droite, il repart, il revient. Et voilà, ça se passe comme ça, exactement au fond comme quand on est dans un zoo et qu'on observe. Donc ça nous met, nous, spectateurs, déjà dans une position inconfortable. Et c'est un signe qu'on met au début du film, puisque le film est effectivement aller regarder des gens en prison, ça n'est pas y être, c'est les regarder. Donc il y a une sorte de signe comme ça qui est envoyé en disant attention, parce qu'effectivement c'est un jeu dangereux d'aller regarder des gens, parce que comme on regarde un animal de zoo, et effectivement le film essaye quand même ensuite de faire autre chose, d'emmener autre chose. Et à la fin, quand le plan revient, on retrouve ce personnage qui se recircule, etc., et qui s'accroche à un moment donné, qui escalade dans cette pièce, qui s'accroche à des barreaux, et là on le voit accroché à des grilles, et il se déplace comme exactement comme un singe, comme le nénette de Philibert, ou comme un singe en cage. Et là, je trouve que ça dit tout ce qu'on, et on est, tout le film est passé, et ça raconte peut-être jusqu'à quel point ça nous renvoie à une animalité, à quelque chose d'extrêmement essentiel, d'extrêmement rudimentaire d'une certaine manière. Non pas que les animaux soient rudimentaires, c'est pas ce que je dis, mais nous, en tout cas, ça peut nous renvoyer à ça, d'être en prison et d'être enfermé, à quelque chose qui s'approche de la folie, exactement comme la folie des animaux qui sont enfermés dans les eaux, qu'on voit tourner comme ça.
Je disais en introduction que si vous filmez, c'est qu'on vous a laissé faire, évidemment. Bon, c'est une banalité que de dire ça, mais quand on est en prison, c'est moins une banalité, parce que ça veut dire qu'on a voulu qu'on voit. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, ou plusieurs personnes, ou une chaîne de décision, qui s'est dit, on est d'accord pour laisser voir.
Oui, je pense que ça va plus loin qu'une simple autorisation, en fait, à filmer. S'il n'y avait pas eu un désir immense. Enfin, il se voit à peine, mais nous, on le sent. Et
moi, je crois qu'il se voit partout. Moi, je crois qu'il se voit partout dans des hommes, le désir d'être filmé par tout le monde.
Ah oui, c'est vraiment... Moi, c'est ce qui me surprend le plus, en fait, quand j'arrive dans cet endroit, c'est que je rencontre pas de colère, en fait. Ils sont pas en colère. Ben, parfois, ils pète un câble, mais il n'y a pas de... Il y a une sorte d'attente, une pause, et puis tout d'un coup, ce désir, en fait, de parler, de nous parler, de communiquer avec nous, de parler à cette caméra, de se laisser voir par elle, et d'imaginer comment on va se mettre en scène, en fait, devant elle, ce qu'on a envie de montrer. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de désir de leur part à eux, d'être filmés, et puis de la part aussi du personnel pénitentiaire et de la directrice. La directrice des Baumettes, qu'on voit lors du conseil disciplinaire, elle a envie, en fait, tout d'un coup, de nous ouvrir ses portes, de nous laisser aller absolument partout, avec une liberté complètement déconcertante. Je suis, vraiment très très surprise par ça dès le début en fait de cette liberté qu'on nous donne. On nous cache rien, on nous montre tout et ça nous prendra encore un an de revenir là avec une caméra à partir du moment où on nous a laissé voir ce lieu-là, mais on nous laissera filmer absolument tout et je peux pas imaginer que derrière ce désir, il n'y a pas aussi une volonté de se remettre en question. Un désir, en tout cas, de la part de l'administration pénitentiaire, de la communication, à l'époque, de s'ils nous laissent voir tout ça, s'ils nous laissent approcher ce monde, et en plus en acceptant de pas avoir un droit de regard au montage final, c'est qu'ils sont en train de réfléchir, en fait, à ce qui se passe, peut-être en train de se dire que là, ça peut plus durer. Enfin bon. Ça, c'est moi qui...
À aucun moment, vous vous méfiez de cette très grande ouverture ?
Non, parce que dans un processus comme ça, quand on se cherche à rentrer, à pénétrer dans des lieux difficiles d'accès, ou en tout cas sur lesquels il y a certaines restrictions et souvent un grand contrôle, toute la question est de savoir qui manipule qui ? Et qui est manipulé ? On ne sait jamais si... À tous les moments. Donc on ne sait pas si, d'ailleurs, on est manipulé par l'administration pénitentiaire qui nous laisse voir la prison comme elle est, mais l'administration pénitentiaire ne sait pas sur ce qu'on leur dit si on est manipulé. D'ailleurs, personne ne sait vraiment qui est en train de manipuler qui. Ça, c'est la première chose. Et puis, on peut appliquer ça de la même façon dans leur rapport au filmeur filmé. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est filmé. Est-ce que, finalement, c'est lui qui prend en otage la caméra pour montrer ce qu'il veut bien montrer lui-même, ou est-ce que c'est nous qui, voilà. Donc, c'est ce jeu-là, cette danse, au fond, elle est, elle est à l'image des relations humaines. C'est toujours essayer d'installer une relation que de filer dans un endroit comme ça.
C'est une question qui se pose à tous les films sont en prise avec le réel, de toute
absolument.
Façon.
Absolument, c'est la question de tous les films qui sont prises avec le réel. Mais après, du côté de l'administration pénitentiaire, est-ce que l'administration pénitentiaire nous laisse rentrer parce qu'il y a vraiment une volonté de se montrer telle qu'elle est ? Alors effectivement, Alice souvent l'évoque. Moi, je suis plus réticent à cet égard-là. Je pense que
ça peut aussi leur permettre de dire, vous voyez, les gars, on est hyper transparents.
Voilà, ça peut permettre ça, mais je pense qu'il y a quelques personnes à l'intérieur du système qui effectivement se disent que pourquoi pas, qu'il faut laisser les documentaristes rentrer dans les prisons, qu'il faut se montrer un peu plus. Il faut savoir qu'on demande le début des autorisations quand on fait les demandes, c'est à l'époque de Taubira. Et à ce moment-là, il y a à l'intérieur du ministère quand même un vent de quelque chose de progressiste qui va pas forcément tout à fait durer. Et puis donc nous, on fait cette demande à ce moment-là, ça joue beaucoup pour réussir à obtenir les autorisations, et on est aidé par quelques femmes, et je dis bien quelques femmes, dans le processus de décision, qui vont vraiment nous aider, nous soutenir pour nous laisser rentrer contre l'avis de l'administration centrale, etc. Donc il y a ça. Je pense pas que l'administration ait vraiment envie de se montrer comme ça. Il y a toujours effectivement l'argument de dire, oui, mais ça, regardez, ce bâtiment-là, des Baumettes, on l'a détruit. Voilà. On peut toujours dire, effectivement, ce bâtiment où ces cinéastes ont filmé, il n'existe plus. Sauf qu'il en existe un autre qui est mieux sur le plan de l'hygiène, mais qui est pas mieux du point de vue de ce que ça de la reconstruction des gens ou de la réinsertion des gens. Donc ça, c'est un jeu fin. En tout cas, une caméra dans un lieu comme ça, c'est important parce que c'est en regardant, Camus disait que c'est en regardant, c'est en rentrant dans les prisons qu'on pouvait juger du degré de civilisation d'une société. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en montrant cette prison telle qu'elle est et qui est à l'image quand même de la prison en France.
Vous montrez cette prison, mais vous montrez en fait beaucoup les humains qui vivent et travaillent dans cette prison.
Je suis arrivé, j'avais arrêté déjà la scolarité depuis mes 13 ans. J'ai arrêté après, je traînais dans les quartiers et tout ça, comme tous les jeunes font de maintenant. Et à 18 ans, j'ai fait une connerie. Quelques mois après, ils m'ont arrêté. Ils m'ont condamné à 8 ans. 8 ans ferme. J'ai pas été intelligent. Là, j'ai niqué toute ma petite jeunesse, là. C'est nickel. La première année, ça n'a pas été long. C'est là, la deuxième année, elle pèse un peu. C'est bien si on connaît du monde, déjà. Après, si on ne connaît pas le monde, il faut avoir les couilles, c'est tout. C'est tout, le premier qui cherche, faut l'emplâtrer direct. Après, si ça devient trop dangereux, on sort un couteau. C'est comme ça, nous on les fabrique, c'est facile à fabriquer. Tous les détenus savent comment on fabrique un couteau. Il y a tout le monde connaît, voilà. Surtout au bon maître, je peux vous le dire. Surtout au bon maître. Il y a eu plusieurs morts cette année, déjà. En promenade, à la douche. Il y a eu une déchirage aussi. Et voilà, toujours pareil, la détention. C'est la jungle. Voilà.
Dicen que las cosillas se arreglarán. Quieras que no te quiera, hago cosillitas malas, mucha malivita mala, y válgame Dios, compa, mira.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec
Jean-Robert Vialet
et Alice Audio. Pour évoquer votre film « Des hommes » en salle depuis mercredi, on entend un jeune homme évoquer comme ça brièvement son parcours, terminer par dire que c'est la jungle, la prison des Baumettes, et juste après, ce qu'on peut considérer comme un haut degré de civilisation, de la musique flamenco, des hommes dans une toute petite cellule, comme ça, on appelle, je sais plus comment on appelle ça, quand on tape les mains, là, bon, bref, et du chant. Vous ne cessez de faire cet aller-retour. C'est-à-dire, à la fois, c'est le pire de la déshumanisation, et à la fois, c'est le pire de l'humanité qui persiste, quoi. C'est le noyau le plus dur de l'humanité qui persiste.
Et oui, dans un endroit, c'est ce qui nous surprend aussi quand on arrive là-bas, dans cet endroit, dans cette architecture qui est fait pour vraiment effacer toute trace d'humanité. Il y en a partout, en fait. Ça déborde. Et puis la musique, c'est un monde de musique, les Baumettes. On entend de la musique partout, tout le temps. Derrière les portes, on n'entend pas que des hurlements et des poings qui cognent au mur. On entend la musique des autres. Et la musique des autres, c'est des gitans là qui chantent. C'est de la musique comorienne. C'est du rap. On est au milieu de la musique des autres tout le temps. Dans cet endroit qui est une jungle, qui est très dangereux, je pensais pas qu'on pouvait mourir. En fait, là-bas, au milieu d'un lynchage, dans une cour de promenade, parce que il y a pas assez de surveillants pour intervenir, parce que c'est trop dangereux, en fait, de surveiller cette cour, d'être là. Et je pensais pas qu'on pouvait.
Vous n'y allez pas d'ailleurs.
Non, on est derrière les barreaux. C'est vraiment le seul endroit dans la cour de promenade qui n'appartient qu'aux détenus. Et puis c'est là qu'on se fait recruter par le prochain réseau de stupes. C'est là qu'on peut monter en grade. C'est là qu'on peut mourir. Et puis c'est là qu'il faut avoir des couilles et qu'il faut être viril, comme le dit ce jeune homme. C'est là qu'on se muscle et qu'il faut survivre, en tout cas.
C'est un jeune homme qui va être en grande capacité de se raconter. Et en fait, c'est le cas de tous les hommes que vous filmez. Ce film-là, il fait exister des histoires et des personnes qui sont comme en toute possession de leur histoire. Ça, c'est parce que c'est le choix de vos personnages de documentaire, comme on dit, où ça révèle ce que vous avez rencontré sur place.
Non, ça révèle complètement ce qu'on a rencontré sur place. Le procédé, le dispositif, si un dispositif, moi j'aime pas trop le mot, mais bon, il est utilisé, donc je le fais aussi. c'est que quand les gens, on les rencontrait instantanément, comme ça dans les couloirs, au croisement d'un couloir, on les rencontrait. Et puis on disait, ils nous disaient, c'est vous qui faites le film intérieur, parce qu'effectivement toute la prison, on sait tout de suite qu'on est en train de faire un film. Et on disait, oui, c'est nous. Et vous êtes où, vous? Et puis comme ça, si on se sentait dans le rapport qu'il y avait quelque chose qui pouvait être possible, on se disait, vous voulez qu'on passe vous voir tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que ça, tout s'est tourné, comme ça. Hein. Et on passait dans les cellules, allons, cellule 43, je sais pas, et donc on se retrouve avec eux. Et là, nous, le principe, c'était, on échange quelques mots, on pose la caméra en plan fixe parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de mouvement déjà dans une cellule, et puis qu'on voulait du plan fixe pour éviter de surjouer la prison, l'horreur, etc. Et ensuite, on laissait tourner. Donc toutes les scènes et toutes les prises de parole qu'il y a dans ce film, et les quelques-unes, parfois c'est, on les voit face caméra une ou deux fois dans le film.
Mais c'est-à-dire, vous sortez?
Non, on est dans la cellule, mais par contre on ne pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une configuration d'interview. C'est là que je voulais en venir. Et à partir du moment où on n'est pas du tout dans une configuration d'interview, les gens sont dans une totale liberté de se raconter. Et comme on n'est pas dans un direct, en l'occurrence,
ils sont devant une caméra.
Non, mais ils sont devant une caméra. Mais comme on n'est pas dans un direct, parfois ça prend un peu de temps. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les gars vivent leur vie à l'intérieur de la cellule. Ils vont soit faire de la musique, soit ils vont être discutés entre eux, etc. Et puis à un moment donné, il y a du silence qui s'installe. Et quand le silence s'installe, le silence commence à être dérangeant pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Et donc tout notre jeu à nous, c'est de tenir le silence le plus longtemps possible pour que si le détenu a envie de s'exprimer, il puisse le faire, et il puisse le faire sur le sujet sur lequel il veut aller seul. Voilà. Et je pense que la qualité d'expression, elle est liée à ça, parce qu'ils sont capables de le faire. Effectivement, il y a cette qualité d'expression d'eux-mêmes, et il y a le temps qui s'est passé avant, justement pour savoir où ils allaient essayer de nous emmener. Parce qu'on est face à des détenus, si vous voulez, qui, c'est pas un film où on oublie la caméra. C'est un film où les détenus se saisissent de la caméra pour atteindre l'extérieur.
C'est pour ça que je disais, pour moi, le désir, il est partout, hein. Il est vraiment, enfin, il Absolument. Est dans votre désir à vous de filmer. Le leur de se dire, il y a une fenêtre, on va parler. La directrice de montrer des choses aussi. La chef de détention. Enfin, bref, toutes les personnes qu'on croise.
Bien sûr.
Mais quand je dis aussi en toute possession de l'histoire de sa vie, c'est aussi une possession de conscience, quoi, de lucidité, de manière de l'articuler, d'être capable de décrire un parcours, même d'avoir comme ça des pistes d'analyse psy, en disant, de toute façon, je voulais chercher ma mère, elle était flic, je me suis dit qu'en volant 4-5 voitures, elle allait bien finir par entendre parler de moi. Bon, j'ai envie de dire, presque tout est dit, quoi.
Mais moi, j'ai filmé beaucoup d'hommes au travail, en train de réfléchir, dans un processus intellectuel, en train de bosser, en train d'agir, en tout cas.
Mais dans vos autres films, vous voulez dire ?
Dans mes autres films. Mais là, c'est la première fois que je suis dans un endroit où tout le monde est en attente, en fait. Tout le monde est sur pause. Et c'est très particulier, en fait, de rencontrer des hommes dans ce moment-là. Du coup, ils se souviennent. Ils se souviennent qu'ils ont un enfant, ils se souviennent de leur femme, ils se souviennent de leur mère. Ils parlent beaucoup de leur enfance, en fait, et de ce père qui n'était pas là. Ils ont beaucoup de temps. Alors, il y a beaucoup d'ennuis, évidemment, là-dedans, mais il y a aussi du temps pour réfléchir à soi, à ce qui conduit là. Et puis c'est les rois de l'entretien aussi, c'est des gens qui parlent énormément d'eux-mêmes.
Le temps passé de part et d'autre d'une table, je me dis, mais c'est fou quoi, pour tout en fait.
Ils n'arrêtent pas d'avoir des entretiens avec leur agent de probation, avec une psychologue, avec... Et c'est les rois de l'entretien. Du coup, ils sont, quand même dans une démarche psychique où, quand même, ils ont été habitués à parler d'eux-mêmes
depuis le tribunal, depuis les juges,
depuis le juge, et puis avant les services sociaux qui les suivaient, etc. Voilà, ils ont donc.
Quand ils ne sont pas complètement atomisés par les médicaments.
Ça, c'est aussi.
Et peut-être aussi, puisque c'est toute une dimension qu'on n'aperçoit pas du tout dans votre film, quand ils ne sont pas dans des processus qu'on dit de radicalisation religieuse, complètement fermée, etc. C'est tout un pan qu'il y a peut-être au Baumettre, je ne sais pas, mais qui n'apparaît pas dans votre film. Et on a eu comme ça des récits de prisonniers qui refusait de parler à personne, complètement fermé idéologiquement et complètement fermé aussi au monde extérieur qui serait déjà la prison. Même la prison, ce serait un monde extérieur auquel il serait fermé. Vous n'avez pas du tout rencontré ça ?
Non. Sur la radicalisation, précisément, effectivement, le sujet excite beaucoup les esprits en France. La radicalisation, déjà à Marseille, c'est un terrain particulier, c'est-à-dire que ça a été étudié par des sociologues, etc. Il y a peu de radicalisation en banlieue marseillaise. Il y a une résistance même au djihadisme, à l'islam radical. Il n'y a pas une résistance à l'islam, il y a une résistance à l'islam radical dans les quartiers de Marseille. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça se ressent aussi en prison. Donc en prison, vous n'avez pas forcément beaucoup de radicalisation à Marseille. Vous avez quelques idéologues parfois qui arrivent là, etc. Mais la radicalisation en prison, on en fait tout un plat en France en ce moment. En fait, c'est à la marge, c'est tout petit. Et puis ça tient souvent juste à une personne, parfois dans une prison, qui va arriver d'un endroit comme dans les quartiers. Hein, c'est la même chose. Et qui a du charisme et qui va réussir à embarquer quelques gars avec lui. Donc on estime en gros qu'il y a 500, je crois qu'il y a 500 personnes qui sont en prison pour des raisons liées au djihadisme en France. On estime qu'il y a environ 1000 personnes, peut-être qu'il y a 500 personnes qui ont été convaincues et converties à l'intérieur. Mais bon, sur 71 000 personnes, c'est peu finalement. Donc il faut voir ça sous ce prisme-là. Donc voilà, donc ça c'est... Et à Marseille, c'est pas du tout une prison dans laquelle l'islam radical est très présente.
Et vous avez... Excusez-moi, allez-y.
Non, je suis désolée. En fait, je voulais rebondir sur la religion. En fait, c'est un... Par contre, être en prison, c'est un excellent endroit pour croire en Dieu. Hein. Enfin, pour s'échapper spirituellement, mais aussi pour passer du statut de celui qui a été jugé à celui qui va juger. On va juger... On va pouvoir juger un surveillant, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est à ça que ça sert, la religion, pouvoir dire ce qui est bien et mal. Mais moi, je voyais ça, en tout cas ceux qui se convertissaient et ceux qui se mettaient à croire en Dieu, exactement comme se faire de la musculation, se droguer ou prendre des médicaments. C'est vrai qu'il y a peu d'échappatoires, mais on va pas pouvoir rester soi-même très longtemps en prison. La prison, elle vous change à tout jamais.
Et ça, c'est vrai pour les détenus comme pour les encadrants ?
Pour les encadrants, c'est quelque chose de plus compliqué. Les surveillants, il y a, je sais pas exactement, est-ce qu'il y a du refoulé, est-ce que les surveillants, déjà, on en a sans doute tous croisé dans la vraie vie. Peu de surveillants disent qu'ils sont surveillants de prison. Vous voyez, c'est un métier très très mal aimé. C'est pire qu'être policier. Alors ça dépend, on peut être policier à l'époque de Charlie, on est plutôt bien aimé, et être policier à l'époque de Castaner, c'est plus difficile, effectivement, ce qui se comprend. Mais donc surveillant de prison, c'est le pire des métiers en fait, il y a pas pire. D'ailleurs, on les appelle les matons. Nous on est dans les projections par exemple qu'on fait dans les avant-premières du film, on a souvent eu mais bon, enfin vous montrez quand même que des surveillants qui ont de l'humanité. Et pourtant, on le sait, les surveillants, c'est des salauds, c'est des gens dangereux, c'est des violents, ils sont là. Non, mais les surveillants sont pas embauchés dans la pénitentiaire pour passer leurs pulsions violentes sur des détenus. C'est pas vrai, c'est un mythe. Il y a toujours, vous trouverez, comme dans tous les systèmes fermés, des gens qui particulièrement vont être des prédateurs, comme vous pouvez en trouver des prédateurs dans les colonies de vacances, par exemple. Certains, mais c'est très peu, encore une fois. Donc la plupart des surveillants sont des gens qui sont là pour faire le boulot et qui essaient de le faire correctement, mais ils sont effectivement très 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 mal aimés. Donc non, les surveillants, c'est une vraie question, et je trouve qu'on a essayé de la montrer de manière assez juste dans ce film, justement.
Mais c'est une question au point qu'on se demande, eux par exemple, eux et d'ailleurs elles, quel genre d'encadrement psychologique, quel genre de soutien, quel genre d'accompagnement pour des gens qui vivent dans un lieu de privation de liberté toute la journée ou toutes les nuits quand ils sont de surveillance de nuit, c'est-à-dire dans un endroit quand même un peu spécifique de notre société.
Rien. Rien. Ces gens-là sont mal payés, sont formés, je sais pas comment, mais c'est pas non plus du délire. Il n'y a pas d'assistance psychologique ou de soutien psychologique. Il va y avoir du soutien psychologique à l'exception quand s'il y a...
Ça craque, quoi.
Si ça craque, si le système craque, c'est-à-dire s'il y a concrètement, s'il y a une, comment on appelle ça, là, une mutinerie, voilà, s'il y a sans doute que là, il y a des soutiens psychologiques qui vont être mis en place, ou une vraie grosse agression, à ce moment-là, le surveillant aura sans doute le droit de voir un psy. Mais sinon, c'est juste des gens à qui on demande d'aller au travail, travaillent le matin et le soir, qui vivent dans un milieu fermé. Certains surveillants qu'on a filmés travaillent dans ces milieux-là depuis 20 ans, 25 ans. Et pas seulement dans ces milieux-là, dans cette même prison. Et certains même, je me souviens d'un qui s'appelle JP, qui travaillait dans le même bâtiment depuis 25-30 ans. Donc la prison, c'était son quotidien, c'était sa journée, c'était chez lui, au fond. Et d'ailleurs, il circulait là-dedans avec une sorte de brio, de facilité, et il installait un rapport avec les détenus avec une facilité déconcertante. C'était vraiment un pro, on va dire. Voilà, mais...
Il ne faudrait pas laisser soi...
Mais ça
ne
peut pas laisser
indemne. Il ne faudrait pas laisser croire que c'est la colonie de vacances.
Mais ce n'est pas du tout la colonie de vacances. Ça peut pas laisser indemne de vivre dedans, ça ne laisse pas indemne, on le sait. Ça peut pas laisser non plus complètement indemne de travailler dedans, un milieu fermé comme ça. Ce sont des milieux anxiogènes. Et puis le pire, pour les détenus comme pour les surveillants sans doute, c'est la situation française. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme une nouvelle fois, après 17 condamnations déjà précédentes. Mais là, on a été condamné dans 32 cas sur les conditions d'incarcération des détenus. C'est catastrophique. On a un problème de surpopulation en France. Nous sommes en France le seul pays de toute l'Europe à être dans cette situation. C'est-à-dire nous sommes le mauvais élève de l'Europe. Avoir cette situation de surpopulation dans les prisons, ça veut dire quoi concrètement, la surpopulation? Ça veut dire que quand dans un bâtiment où vous devez avoir théoriquement 1000 détenus et que vous en avez 1700, 1800, voire 2000, les Baumettes, c'est monté jusqu'à 2200 personnes pour 1200 places à une époque, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous occupez des gens? Comment font les gens pour travailler? Comment font les surveillants pour travailler avec 200% de taux d'occupation? C'est l'enfer de travailler dans ces conditions-là. C'est comme si on vous demandait de faire le double de travail sur une journée qui est déjà largement suffisamment chargée. Pour les détenus, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les détenus n'ont plus vraiment accès à toutes les possibilités, toutes les nécessités vitales. Les soins psychologiques, puisqu'il y a trop de monde, donc il n'y a pas assez de psy. Les soins médicaux, les soins dentaires, l'accès aux infirmières, l'accès aux ateliers, l'accès au travail. Donc tout le système, à ce moment-là, part à la dérive comme un radeau qui comme un radeau crevé.
D'ailleurs, c'est tout autant de lieux que vous ne filmez pas. Infirmerie, atelier possible, atelier travail, éventuellement parloir, éventuellement entretien psychologique, qui sont des lieux essentiels puisque vous regardez l'humanité de ce lieu-là. C'est à cet endroit-là que peut-être on l'a fait un tout petit peu vivre, qu'on la soigne un peu.
Mais pour avoir un entretien avec un psychologue en prison, il y a 4 mois d'attente. Travailler, c'est vu comme une récompense et très peu y accèdent.
Avec un salaire qu'on peut rappeler ?
2 euros brut de l'heure. Le droit du travail ne s'applique pas en prison. Et tout ça, c'est vraiment, ça fait pas partie de leur quotidienneté. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était
la cellule,
être
quoi.
Là où ils vivent, 22h30 sur 24, pour de vrai, en fait. Et c'est ça qu'on a eu comme autorisation, en fait, qui est exceptionnelle. C'est qu'on a pu être là, à leur côté, dans leur cellule, dans la coursive, là où ils sont enfermés toute la journée. Ensuite, on voit une distribution de médicaments, hein, avec une infirmière qui fait comme elle peut pour s'occuper d'eux, avec le temps qui est imparti.
Mais qu'il le fait si bien dans ce tout petit temps-là.
Très très bien, et elle est très importante.
On est vraiment sur 45 secondes entre deux portes, hein. Mais c'est, ouais, ça semble très précieux.
Oui, 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 bien sûr que c'est très précieux, c'est infiniment précieux. Ensuite, oui, il y a une très belle bibliothèque au Baumettes. On nous a reproché une fois de pas l'avoir filmée, mais 60% des jeunes qui rentrent au Baumettes échouent aux tests de lecture et d'écriture les plus simples. Moi qui faisais signer les autorisations de tournage, même Marseille, c'est pas facile à écrire. C'est pas vrai, ils ne lisent pas, ils n'ont pas accès aux livres, l'école n'a pas voulu d'eux, et le travail n'en voudra pas non plus d'ailleurs. Ils sont depuis longtemps en dehors du projet culturel, en dehors du projet politique.
En dehors du projet politique, c'est flagrant, il y a aucune mention qui est faite à l'idée du politique, à l'idée du collectif, mais vraiment du politique au sens de comment on organise la vie des humains, la vie des hommes, pour reprendre le titre de votre film. Il y a un seul qui en fait mention et qui dit pas de versement dont mon RSA 465 euros, pas de relation avec la CAF. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
Ces
Personne
gens-là,
ne pensera à nous.
Ces gens-là sont indésirables. C'est vraiment une classe sociale à part. pas vraiment des prolétaires, ni des... Enfin, oui, des dominés, certainement, j'en sais rien, mais c'est des indésirables. On ne veut pas d'eux. On les efface, là, entre quatre murs, on les a mis là. Et tant qu'on les voit pas, tout va bien, en fait. Mais ils vont ressortir, en fait. Ils vont ressortir et ça va recommencer. Parce qu'aujourd'hui, plus de 60% des gens qui sortent de prison, ils retourneront. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et non, les jeunes qu'on a filmés ne font pas partie du projet politique marseillais. En tout cas, alors là, c'est sûr, ils vivent dans des quartiers où seul le réseau de Stup pourra les embaucher. Il n'y a aucune discrimination à l'embauche, il y a du boulot. Et ceux qu'on filme là, c'est les prolos du shit. Hein. C'est vraiment des petits jeunes, des chouves qui gagnent quelques dizaines d'euros par jour. Hein. C'est pas les chefs de réseau qu'on est en train de filmer. Et voilà, c'est ça leur ambition sociale, en fait. Ils savent, ils ont intégré depuis très longtemps, en fait, qu'ils n'ont droit qu'à ça.
Mais tous portent un discours de résilience, de « cette fois, c'est la dernière fois », de rachat, de salut, de « j'ai conscience de mes conneries, madame la directrice, je ne le referai plus ». D'ailleurs, à un moment donné, on se dit « est-ce qu'on n'est pas au conseil disciplinaire du collège de quartier, en fait ?» Tellement c'est des gosses à qui on... devant qui on met la faute accomplie, mais qui est 25 grammes de shit dans la salle d'attente du parloir, ou bien en effet un autoradio ou quatre voitures volées. Je dis pas que c'est rien. Je dis que c'est quoi par rapport à une incarcération pendant 2, 3, 4 mois, 2 ans.
Non mais c'est rien. En fait, c'est rien. On se pose la question, effectivement, de pourquoi une partie de ces gens-là... On est dans une maison d'arrêt, on n'est pas dans une centrale là, on n'est pas en train de filmer le grand banditisme, la grande organisation criminelle, etc. On est sur le tout venant de la petite délinquance, et c'est la majorité des gens dans les prisons françaises, il faut quand même le savoir. Donc on est sur quoi? On est sur des gens qu'on enferme, qu'on stocke. Ça s'appelle du stockage, en fait, concrètement. On fait exactement... On ne fait pas autre chose là que de stocker des gens périodiquement dans des endroits parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire et que plutôt que de les former, autant les stocker. Ce qui est bizarre, ce qui est incompréhensible dans le projet politique français, c'est que ça coûte plus cher de les stocker en prison que de les former à l'extérieur.
Beaucoup plus cher.
Beaucoup plus cher. Ça coûte 3 fois plus cher. Donc ça coûte entre 120 et 140 euros quelqu'un, une journée de prison d'un détenu, ça coûte 40 euros un détenu en formation à l'extérieur avec un bracelet électronique.
Je veux juste dire, Alice Audio et Jean-Robert Vialet, qu'on vous entend là fort de beaucoup de connaissances, de beaucoup de chiffres, d'une grande connaissance de terrain manifestement, et aussi de revendications qui ont des aspects clairement politiques, ce qui n'est pas du tout comme ça, c'est pas le ton du film. Le film, il a un autre endroit. Alors, vous faites quoi? Vous faites confiance, vous nous faites confiance? Vous faites confiance aux, j'espère, nombreux politiques, femmes et hommes qui le verront? Vous faites confiance au futur maire ou à la mairesse de Marseille?
Je pense que...
On vous a vu, hein.
On n'a pas... on n'a pas... On peut pas changer le monde. Enfin, on peut pas... On sait très bien qu'on pourra pas. Par contre, donner à voir une partie de ce monde-là. Ça, c'est en notre pouvoir, par contre. C'est pour ça que... Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce boulot. C'est pour aller dans ces endroits-là qui se laissent pas facilement approcher. Le monde de l'entreprise, la prison. Pour montrer, en fait, comment ça marche. Bien sûr qu'on est content, en fait, de montrer ce travail-là, et si ça peut servir à donner un instrument pour réfléchir en fait à la société dans laquelle on vit, c'est ça un film politique sans doute. C'est pas d'affirmer des chiffres, et c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas envie avec Jean-Robert de faire ce film pour la télévision, mais bien pour le cinéma, parce qu'on n'avait pas envie de transformer le spectateur en élève. Je pense ce qu'on lui a montré suffit, en fait.
Et puis, c'est du cinéma, c'est-à-dire que le projet de départ, effectivement, c'est deux choses. Il y a un projet politique, un fond politique, mais qui est d'ailleurs qui passe même par notre propre subjectivité, tout ça. Mais c'est pas ça, il y a pas besoin de l'affirmer. C'est dans les plans, c'est dans les images, c'est dans le montage, tout simplement. Le document en lui-même, le film lui-même, c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit pour nous d'emmener le spectateur dans une expérience, de cinéma. Et donc dans une expérience de cinéma qui peut réveiller sa fibre politique, qui peut réveiller sa fibre compassionnelle, qui peut réveiller sa colère, s'il a envie d'être en colère. Donc, qui peut réveiller juste même ses mécanismes de réflexion et de pensée ou son envie de se documenter. Le film, il est pas là pour concrètement documenter, apporter des réponses, etc. Il est là pour vous emmener dans une histoire, et dans une histoire qui, là, est pertinente, parce que effectivement, c'est des lieux où on ne va pas, nous. Les autres, ceux qui sont pas, ceux qui sont à l'extérieur. Donc là, c'est la possibilité, un film comme ça, de vous emmener quelque part dans un endroit qui est pour le commun des mortels, pour nous tous, inaccessible, ou en tout cas qui est pas un lieu qui nous est habituel et qui nous est commun. Et c'est la possibilité, le film, de vous mettre dans une situation, dans du ressenti, dans l'inconfort, mais aussi dans de l'émotion, dans toutes ces choses-là qui sont extraordinairement importantes pour nous tous, pour réfléchir aussi à la société dans laquelle on est.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant ce tournage ? Ou pendant ce montage d'ailleurs, qui est aussi un autre moment pour regarder les images qu'on a faites, pour les penser, etc. Qu'est-ce qui vous a vraiment... À quoi vous ne vous attendiez vraiment pas ?
Moi, je m'attendais pas... Pardonnez-moi, je fais une petite incise avant, mais c'est-à-dire que, en plus, quand on s'attaque à faire un film de prison, c'est du film de genre. Autant dans la fiction que d'ailleurs que dans le documentaire. On est vraiment dans les films de genre. Et dans les films de genre, il y a quand même pas beaucoup de films français sur la prison. Il y a Un prophète d'Audiard qui est une superbe œuvre. Mais sinon, la plupart du temps, on a été nourri par les films de prison et américains plutôt. Donc on a une idée de la prison qui est tout à fait préconçue, qui est tout à fait fausse, etc. Et moi, je m'attendais donc, et j'avais plein de stéréotypes. Je pensais plein de choses. Quand on arrive en prison, moi, ce qui m'a surpris, c'est la présence, effectivement, de la capacité de résilience des gens et la présence de l'humanité partout. Et le débordement de l'humanité partout, dans tous ces petits endroits de la prison, alors qu'effectivement, la prison cherche à vous en priver de cette humanité, ça, c'était vraiment une découverte, c'était quelque chose de fantastique. Et c'était vraiment tout le temps, c'est-à-dire que on n'a pas surjoué ça dans le film, dans la captation, c'est vraiment quelque chose, ça nous impactait tous les jours avec chaque personnage.
Et qui n'est pas non plus Disneyland, hein, ce film.
Et c'est pas du tout Disneyland. Ah non, on n'est pas dans un truc youpi youpi, il n'y a pas des licornes roses avec des... Non, pas du tout. Mais l'humanité, parfois elle est rugueuse, hein. L'humanité parfois elle est en souffrance, pas. L'humanité parfois elle vous réjouit, parfois on rit même dans le film à d'autres moments. Donc nous c'est ça qu'on a essayé vraiment de saisir avec la caméra et avec le son.
Moi je crois que c'est la première fois en fait que je m'ennuie pas. C'est la première fois que je m'ennuie pas du tout, pas un seul instant, pendant un tournage. Et je me dis que là, il faut que je fasse attention aux émotions, en fait, que j'éprouve. Et qu'en fait, ça va être ça, la matière du film. C'est qu'il va falloir transformer, métaboliser cette émotion et la transmettre aux spectateurs. Et c'est la première fois que je suis dans un processus créatif pareil, où en fait, mes sensations... Et mes émotions, elles vont guider assez directement le tournage et puis le montage. Je vais rééprouver aussi ces émotions, ces sensations qui peuvent être parfois. J'ai pu rire vraiment quoi. Et puis j'ai pu être profondément touchée, affectée par le récit d'un jeune homme qui raconte à quel point son fils lui manque. En fait, ce qui me surprend...
Voilà, jeune homme qui a 19 ans.
Ouais, il a 19 ans, il a eu un gamin à 17 ou 18 ans. Et ce qui me surprend, voilà, c'est que je m'ennuie pas parce que je peux presque toucher du doigt, en fait, ce que ressentent ces gens. C'est comme si je pouvais palper leur solitude, leur folie, leur drôlerie aussi, leur tendresse. On est très proche d'eux, c'est une intimité qui est très particulière. On voit leur corps marqué de cicatrices, ils portent plein de choses sur eux. Et puis on s'approche de plus en plus près dans cette sphère émotionnelle qu'on palpe là, enfin, et puis du coup ils peuvent, on leur donne aussi cette possibilité de se taire, de soupirer, de fumer, de parler tout doucement, et ouais.
On pourrait dire que finalement, c'est parce que 9 mètres carrés, tout est exacerbé, ou parce que dans un endroit où on est privé de sa liberté, tout est exacerbé. Mais on pourrait dire autre chose à vous écouter tous les deux. Vous décrivez un lieu, en fait, presque de vitalité. Vous décrivez un lieu de d'espoir, presque, de profonde humanité, que contradictoire, paradoxal, fragile, etc. Mais alors, du coup... Enfin, je veux dire, il y a qui est là, en fait. C'est bizarre.
Il faut s'imaginer, en fait, ce que c'est. 9 mètres carrés, quand on partage cette intimité à trois. C'est une vie qui est contre nature, en fait. C'est contre nature que de cuisiner à un mètre de l'endroit où vous venez d'aller aux toilettes devant les autres. C'est contre nature que de vivre sans sexualité.
C'est contre nature de demander tout le temps à quelqu'un pour ouvrir une porte.
Tout le temps à quelqu'un pour ouvrir une porte.
D'être toujours regardé en permanence.
Quand ils sortent de prison, d'ailleurs, certains restent passent du temps en fait à rester sur leur lit et puis à comprendre qu'en fait non, ils peuvent ouvrir la porte. C'est plein de réflexes. C'est une vie qui est contre nature. Il va falloir déployer en fait tout ce qu'on a comme pouvoir d'imagination, de réflexion, pour puiser tout ce qui nous reste pour être un homme.
Donc, en fait, c'est davantage presque un documentaire sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme et quelles ressources on a dans la plus grande adversité. Alors, j'ai peut-être pas davantage sur ça que sur la prison, mais en tout cas, clairement, vous filmez ça.
Et c'est pour ça qu'on l'appelait des hommes. On s'est posé la question pendant le montage, et ça nous est apparu petit à petit, mais on aurait pu l'appeler la prison, ou je ne sais quoi, ou à l'ombre de la République, ou la République des ombres, ou je ne sais quoi. Mais non, à un moment donné, effectivement, on s'est dit, mais ça s'appelle des hommes, en fait, ce film, parce que c'est ça dont on parle. C'est l'humanité, c'est des hommes, c'est de la complexité, etc. Et en fond, effectivement, de tout ça, sur tout cette suite d'images et de séquences, effectivement, vous avez au fond la subjectivité et l'objectivité politique qui viennent s'ajouter à ça en plusieurs couches, l'absurdité du système, l'arriération du système, la question
et un
politique.
Système judiciaire par vidéo.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions à poser à Monsieur Fernandez?
Monsieur Fernandez revient sur ce qu'il a compris de cette peine qui a été prononcée à votre avis de tribunal lorsqu'on marche de Montez. Vous a condamné à 12 mois d'emprisonnement.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message il vous a fait passer et qu'est-ce qu'il a voulu?
Moi, j'ai pris un coup de massue. Hein. Sincèrement, j'ai honte. Mes enfants ne sont pas au courant que je suis ici. Ils croient que je travaille sur un bateau. Je suis désolé, on est une famille commerçante. J'ai toujours bossé dans ma vie. Me retrouver ici, moi, c'est une honte.
La privation de liberté, M. Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis?
La privation de liberté, on m'a coupé de tout. Pour moi, c'est trop compliqué ici. Moi, sincèrement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les enfants, c'est trop dur. Je ne peux pas, je ne fais pas partie de ce milieu, je ne peux pas.
Voilà, madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur Fernandez, il est tellement bien privé de liberté qu'il vous explique qu'il a fallu qu'il prenne un téléphone en détention parce que c'était le seul moyen qu'il avait de voir ses enfants. Monsieur Fernandez, c'est la peine, justement, que vous exécutez la vie. C'est comme ça, c'est le principe d'une peine privative de liberté. Monsieur Fernandez ne présente aucune garantie pour quelqu'un qui est un travailleur honnête et un citoyen modèle, absolument pas. C'est quelqu'un qui s'arrange avec la réalité, qui ne reconnaît pas absolument pas les faits pour lesquels il a été condamné, qui vous indique qu'il a été consommateur à un niveau, disons, élevé de stupéfiants, mais que pour autant, il s'en est sorti tout seul et qu'il est hors de question de tout des francs parce que ça veut dire des cachets, monsieur Fernandez, il estime qu'il serait peut-être temps que la justice le comprenne et que donc le laisse sortir de détention pour aller effectuer un contrat de travail chez sa sœur, qui, à mon sens, n'a absolument aucune autre pérennité que celle de faire sortir M. Fernandez de détention. M. Fernandez, pour son discours, sa manière de présenter les choses, la manière qu'il a de vivre sa détention et sa condamnation, me font craindre à avoir, en tant que représentant du ministère public, le plus grand risque de récidive. Et pour tous ces éléments, je vous demanderai de rejeter sa demande d'aller à la.
Un extrait des hommes, on a commencé Alice Audio et Jean-Robert Vialet par un détenu sourd et muet qui rentre en détention et on termine par cette justice quasiment inaudible. On imagine que ce n'est pas un geste sonore complètement anodin de votre part.
Non, pas du tout. Théoriquement, quand on a un son comme ça,
on le trappe.
On l'utilise pas. Voilà. Sauf que là, c'est pas le son que nous avons produit, c'est le son qui s'échappe de la télévision. On est dans une pièce, on est à l'intérieur de la prison, on est dans une pièce de, je sais pas, 7-8 mètres carrés. Il y a un détenu assis pour un qui demande un aménagement de peine, c'est-à-dire qui demande à pouvoir sortir pour les 3 derniers mois de sa détention avec un bracelet électronique. Et il y a un écran devant lui, et de l'autre côté de l'écran, au tribunal de Marseille, il y a procureur, juge, enfin les magistrats qui sont là, et son avocat. Et donc cette scène, c'est une scène de jugement, d'aménagement de peine, où il peut s'exprimer, il va être questionné, et son avocat, à lui, va s'exprimer. Le son est inaudible, lui-même a du mal à entendre le son, donc on comprend il fronce les yeux, il cherche à écouter, on comprend la violence d'être jugé dans une situation comme ça. Et moi, ça me fait penser à autre chose, en plus de cette violence et de l'absurdité, alors là, pour le coup, vraiment de la justice, on est dans un modèle gestionnaire, c'est-à-dire que pour faire des économies, on a installé des visioconférences.
On ne se déplace pas, l'avocat parle pas aux détenus.
Voilà, on gagne du temps, c'est plus simple, il n'y a pas de transfert de détenus au tribunal, où il n'y a pas de transfert de les juges et les magistrats n'ont pas besoin de venir en prison, ça permet de faire plus d'abattage, ça permet de faire plus de visioconférences à la journée. Et c'est des choses qui ont tendance et qui vont se développer. Mais à quoi, au fond, si on y réfléchit, on assiste véritablement encore plus loin, si on cherche à aller encore plus loin dans l'analyse, on est pas loin de la télé-réalité, en réalité. Il y a quelque chose qui se passe d'assez étrange, moi je trouve, c'est que on a deux situations et des personnages réels d'un côté et l'autre, au tribunal et à l'extérieur, qui se regardent par un écran interposé et qui se regardent avec distance d'une certaine manière, dans un moment de réalité et de tension, puisque c'est un jugement. Donc moi je trouve qu'il y a quelque chose là qui est d'un cynisme et d'une violence absolue.
Le 1er avril, le film sera projeté au Baumettes. On vous souhaite une très bonne projection en attendant pour tout le monde. Eh bien, c'est en salle. Merci beaucoup à tous les deux, des hommes.
Merci. Merci. Je vais dire deux noms pour terminer, parce que je pense que leur rôle est vraiment primordial. C'est Jérôme Viciac, le mixeur son du film, et Christelle Rotac, la directrice de la prison des Baumettes au moment où vous avez filmé. À la prise de son ce soir, c'était Audrey Guélil, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Julie Ascal, Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor, Chloé, aujourd'hui. Et c'est aussi une page sur internet franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, et un podcast via l'application de Radio France. Dans un instant, le journal de 22h. Très belle soirée à toutes et à tous.